podcast.com. Essaye ça.
Hey, checker ça en background, comment on est savi à soir. Hein? On a mis la trame sonore de Earthworm Jim, un héros quand même assez particulier et assez facilement reconnaissable. Mais c'est pas la version Super Nintendo à laquelle la majorité des gens que je connais sont habitués. On est allé, hein, Jason, t'es allé dans le Sega Genesis, incroyable.
Le Sega Genesis, écoute. Toute ma vie, j'étais Nintendo, puis ma première blonde était Sega. Fait que
oh, le clash.
Ça l'a chamboulé mes habitudes. C'est ça qu'on écoute
manette
à
trois pistons. T'as changé de console pour l'amour.
Une des pires manettes de tous les temps, ça. C'est, ça avait aucun esti de bon sens.
Ça va dans une espèce de boomerang, ça.
Ouais, non, mais c'était plus le fait qu'il y avait trois pitons, tu sais, que si tu voulais peser A puis C, il y avait avec un pouce, c'était pas quelque chose qui était possible. Vous avez reconnu, mesdames et messieurs, les voix de vos trois fidèles comparses usuels réguliers de Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering. On dit salut à Emmanuel. Salut, man.
Well, hello there.
Hello there. De quoi tu nous jases à soir? Je sais que tu es responsable de la garde de la semaine.
Oui, puis écoute, on se lance on se lance dans les nouvelles cartes. Là. On s'est fait bombarder de spoilers depuis jeudi passé. On se lance dans les Streets of New Capenna à fond la caisse.
J'aime ça. Et Jason, le Sphinx, de quoi tu nous amènes, toi, ce soir?
Ben moi, ça va être en première partie. Je vais juste faire un petit wrap-up là, de comment le set de New Capenna a été fait.
Ah oui, j'aime
puis,
ça.
Puis après ça, Eman, on va passer à travers là, les premiers spoilers significatifs. Et la semaine prochaine, on va faire notre traditionnel épisode de draft, là, de le guide du draft de
New Capenna. J'aime ça.
Parce que je rappelle au monde que dans la semaine suivante après ça, le 22 et le 23 avril, ça va être le pre-release. Et pour on vous encourage à aller faire votre pre-release dans les magasins. Afin d'encourager vos commerces locaux. Moi, j'ai l'intention de le faire.
On s'en va au Valet de cœur.
Oui, le Valet de cœur le 22, j'ai entendu dire.
Le 22,
ouais.
C'est le projet.
Bon, c'est ça le projet. Fait que si vous voulez jouer contre des gens de Terrain Basique et vous faire donner une volée, venez au Valet de cœur pour le pre-release.
Ouais, c'est le bout de la volée, je ne sais pas si ça va être à sens unique, là, mais venez essayer de nous en crisser. Là,
on donne autant qu'on reçoit.
Super.
Écoute, c'est vraiment fascinant parce que, écoute, on est de retour avec un set. Trois couleurs, les fameux wedge. J'ai remarqué qu'il y a comme un pattern, hein, parce que au printemps 2020, c'était Ikoria qui était exactement la même chose. Les wedge de Ken of Tharky, mais non, mais tu sais, c'était trois couleurs.
Il présentait comme un set trois couleurs, mais je suis retourné voir, là, il était pas mal moins trois couleurs que New Capenna va l'être.
Ah, mais oui, ça, je suis d'accord. Mais regarde, l'année passée, c'était ce qu'on appelle les wedges, hein, comme par exemple là, le blanc, noir et rouge. L'année passée, c'était School Strixhaven,
yep.
Qui était aussi trois couleurs, mais les shards, par exemple, noir.
Strixhaven?
C'était les mêmes wedges.
C'était deux couleurs, Strixhaven.
Strixhaven, c'est deux couleurs. Oui, t'as raison, c'était deux couleurs. C'était comme Ravnica.
Ouais.
Là, pour le set du printemps de cette année, on est dans les trois couleurs. Yep. Avec une petite twist spéciale, hein, ça fait longtemps qu'on le mentionne, mais j'ai trouvé les traces. Je vais le partager. Il va être inclus dans la description de l'épisode. Ça, c'est l'image qui a starté la patente. Mark Rosewater, il a fait un article là, sur le making-of du set. Puis, il a révélé que souvent, ce qu'ils font, c'est les artistes qui amènent des idées. C'est pas tout le temps. Tu sais, t'as certains sets comme les Zendikar, ça va être les designers de Magic qui disent, mettons, OK, on fait un set basé sur les lands. Puis, à partir de ça, ils construisent là, le design, le look du set et tout le travail. Etc. Dans certains cas, comme ici, on part dans le sens inverse. C'est qu'ils ont parti de ce dessin-là qui était un ange et un démon avec un look hors déco gangster des années 30. Et pour véhiculer espèce de d'image, d'intrigue, tu sais, film noir, les anges et les démons sont à la fois alliés et ennemis, il se passe des affaires, c'est des jeux de couloirs dans les cabarets. Fait qu'ils sont partis de cette base-là, puis à partir de ça, ils ont dit « OK, qu'est-ce qu'on fait? » Puis les mentions au début, c'était censé être « OK, est-ce qu'on fait un set tribal basé sur les tribus, tu sais, les anges contre les démons? » Puis là, on va ajouter d'autres creature types. Mais finalement, ils trouvaient que c'était so-so, puis ça clashait trop avec Innistrad, qui était dans la même rotation standard. Fait qu'ils ont décidé plutôt d'aller dans une autre direction, puis d'aller un peu comme Strixhaven, c'est-à-dire des mécaniques, là, trois couleurs, c'est-à-dire cinq familles de trois couleurs qui s'affrontent pour le contrôle des rues de New Capenna. Et chaque famille a comme son propre... sa propre saveur. J'ai aimé comment ils sont arrivés. Je trouve que le set est vraiment tight. Puis je vais juste vous montrer un exemple avant qu'on se lance dans les spoilers. Juste un petit comme un exemple pour voir à quel point c'est tight. Puis quand on va drafter, on va pouvoir aller dans toutes les directions. Si on prend par exemple là, la famille des Obscura, qui sont les blancs, bleus et noirs, mais surtout principalement basés sur le bleu, qui tournent beaucoup autour de la mécanique Connive, qui est dans le fond un loot amélioré. C'est-à-dire, Connive, c'est quand il rentre sur le battlefield, par exemple, dans le cas du Echo Inspector, qui est un oiseau 2-3 flying pour 4, quand il rentre sur le battlefield, tu connive. C'est-à-dire que tu piges une carte et tu discartes une carte. Et si c'est un non-land card, tu mets un counter +1/+1 sur cette créature-là. Donc, ça t'encourage à tout le temps de garder des cartes dans tes mains pour pouvoir les discarter parce que tu vas connive beaucoup. T'sais. Puis, tu veux aussi booster ton graveyard. Puis les maestros, qui sont les assassins des Streets of New Capenna, les maestros, qui sont dans le rouge, le noir et le bleu. Donc, deux couleurs, les deux familles ont deux couleurs pareilles, c'est-à-dire le bleu et le noir. Ils vont un peu se compléter là, quand tu drafts. Par exemple, on a Join de Maestros, qui est le sorcery. Dans le fond, on voit un ogre qui se fait... comment ils disent ça là, en anglais, ils disent made, c'est-à-dire que tu te fais adouber, là, tu rentres dans la famille, t'es maintenant des nôtres, on voit il se fait mettre son nouveau suit. Là. Sorcery, ça c'est la mécanique casualties, tu vas sacrifier une créature qui a un power de 2 ou plus afin de copier ce spell-là.
Fait que, le power va être dépendant du chiffre qui suit casualty.
Fait casualty
2, ben là, il faut que tu aies un power de 2 ou plus.
De 2 ou plus, qui est très facile à avoir.
3X.
Puis là, ça permet de faire un token ogre 4-3 warrior. Puis dans le fond, si tu as réussi à faire ton casualties, tu vas avoir 2 ogres 4-3 warrior. Tu sais, ça fait référence au fait que pour rentrer chez les maestros, il a fallu que tu tues quelqu'un pour montrer que tu avais de la crédibilité. Fait qu'on voit que les deux ont un peu sensiblement la même chose parce qu'après ça, tu vas avoir des cartes qui vont faire le pont dans les couleurs gold, comme le Snooping Newsy, qui est une espèce d'espionne là, qui fouille dans une ruelle des plans, dans un entrepôt. Human Rogue, hein, un 2-2 pour un bleu, un noir. Quand elle rentre sur le battlefield, tu te milles de 2 cartes. Et tant que tu as 5... mana value de plus dans ton graveyard, hein, c'est-à-dire que les mana cost des cartes de ton graveyard dépassent 5, ben ton Snooping Newsy a +1/+1 et lifelink. Fait qu'il
j'aime ça, toi.
Oui, mais on voit la synergie entre les deux. Là. Le connard te fait looter.
Ben oui.
Le casualty te fait envoyer des créatures au graveyard. J'aime bien là, comment le set est tight par rapport à ça. Cependant, je suis un peu... Sur la mécanique, je pense que je vais être content. Je suis un petit peu déçu sur le art. C'est un peu comme Strixhaven. Là. Il y a un petit peu trop de mauve, de rose et de fluo à mon goût. À date, là, je trouve qu'il aurait pu le mettre... C'est un film noir. Là. Je trouve qu'il n'est pas assez dark. Il n'y a pas assez de pluie. Il n'y a pas assez de ruelles. C'est un peu trop joyeux, je trouve, pour bien véhiculer là, ce qui serait des
ouais, amis.
Ça, c'est mes préférences personnelles.
C'est ça, un mauvais feeling confirmed.
Non, je pense que je vais aimer cette-là. J'avais un bon feeling depuis le départ. Là, puis les mécaniques cette semaine m'ont confirmé que mon intuition était bonne. Ça a l'air à se tenir ensemble. Je vous ai juste montré un échantillon. On va voir dans l'épisode du draft la semaine prochaine là, que... T'as vraiment, là, il y a 5 archétypes. Ben, il y a 10
et plus, ouais, c'est ça, c'est à travers les trois.
À travers les cinq familles qui ont trois ouais. couleurs chaque. Fait que les paires de couleurs se rejoignent bien. J'ai bien hâte de vous présenter ça la semaine prochaine avec Cayman.
Bon, Colin. Fait que ça nous amène à quoi? C'est-tu la carte de la semaine?
Ben, au plus, se lancer quelques petits spoilers avant, si vous voulez.
Bien sûr, on va couper ça.
Surtout qu'il y a comme des vu qu'on est à peu près au milieu, il y a certaines familles qui ont moins. Ils ont comme présenté plus par famille.
Famille, oui. Jusqu'à maintenant, ils ont montré Obscura, puis.
Beaucoup Obscura, Maestro. Puis,
et aujourd'hui, on commence les cabarets
aujourd'hui. Ouais. Fait que je vais vous montrer celle qui en a un petit peu moins, puis après ça, on va se garder le gros chunk pour la semaine. Fait que, ben oui, comme Jason vient de l'expliquer, là, c'est un vrai set à trois couleurs, là, comparativement à Ikoria, que j'avais dit, qui était un peu présenté comme un set à trois couleurs, mais j'avais l'impression qu'il était beaucoup plus axé sur des paires de couleurs, puis peut-être des fois des trois couleurs. Là, il y avait trois cartes par. Triomphe seulement, puis c'était juste en rare puis en mythique. Tandis que New Capenna, il y en a vraiment là, plusieurs et à toutes les raretés. Là. Fait que c'est le trois couleurs est très poussé. Puis c'est
il y a même des fetchlands communes qui en tapent.
Absolument.
Ça, je l'avais collé à cette
place. Ouais. Puis c'est le retour des watermarks là, qui vous indique un peu quelle carte va dans quel archétype.
Si
c'est une carte rouge, il va avoir le watermarks des cabarettis, disons, qui t'indique peut-être que ça va mieux dans.
C'est le logo de la famille là, qui est derrière.
En arrière du texte. Là, ouais.
Attention à ça qu'elle vous draftez.
Yep. Fait qu'on va y aller avec la première famille, les Brokers. Dans le fond, c'est les deux qui ont que leur boss n'avait pas été révélé la semaine passée. On avait vu quelques cartes et puis il manquait deux familles. Fait que les chefs de clan ont été révélés.
C'est les avocats.
Ouais, les brokers, c'est les gens d'avocats, effectivement. Falco Spara, Pact Weaver, là, ils font des pactes avec tout le monde. Puis, fait qu'ils gardent des dettes et tout ça. C'est un 3-3 Flying Trample Bird Demon. Vous allez remarquer, là, toutes les boss de syndicat, ils ont tout un demon dans leur type. Plus un ou deux autres creature types.
Ah oui, parce qu'on a appris la semaine passée qu'il n'y a plus d'âge parce qu'ils sont tous transformés en jus.
Eh oui, il faut que Joe savait. Un colorless et couleur de bête, là, vert, blanc et bleu. Pour le 3-3 Flying Trample, quand elle rentre sur le battlefield, elle a un shield counter on it. Et c'est la mécanique, entre guillemets, je vous dirais, des brokers. C'est les shield counters. C'est une nouvelle chose qu'on n'a jamais vue avant. C'est un counter qui se retire si jamais la créature devait être détruite.
Faut la tuer deux fois.
Faut la tuer deux fois.
C'est si simple. C'est le genre de truc que tu dis comment ça se fait qu'ils n'ont jamais.
Ouais.
Mais en fait, ça l'existait, man. C'était les totems dans Zendikar. C'était sous la forme d'aura. Fait que si tu pétais l'aura, il n'y avait plus son shield. Là, dans ce cas-ci, c'est un counter. C'est beaucoup plus difficile à enlever.
Effectivement.
Fait que, oui. Et puis, en plus. Tu peux regarder le top card de ton library à n'importe quel moment et tu peux caster les spells de ton top de ton library en enlevant un counter sur une créature que tu contrôles en plus de payer le coût du spell. Donc, ça indique que non seulement les shield counters, mais pas mal tous les types de counters vont importer pour les brokers. Vu qu'ils n'ont pas sorti beaucoup de cartes de ce clan-là à date, je suis comme allé sortir quelques exemples pour vous illustrer les counters. Là, par exemple, les Exotic Pets, qui est un instant pour un colorless, un blanc, un bleu, que tu crées deux 1-1 Bluefish Creature Tokens qui ne peuvent pas être bloqués. Et après, pour chaque sorte de counter que tu as parmi les créatures que tu contrôles, tu peux mettre un counter de cette sorte-là sur un ou l'autre des tokens. Donc, ça te récompense avec si tu as déjà un shield token qui traîne, ben, tu peux sur ton petit poisson.
C'est le fun aussi parce que ça rejoue avec. Il y a une affaire, je m'ennuie un peu, mais dans Ikoria, là, les tokens, genre Dead Touch Token, puis ces affaires-là, les tokens d'habitude, j'aime beaucoup ça. Moi.
Oui, ben, ils les avaient ramenés pour Kamigawa.
Ouais, un petit peu.
Ça semble être là pour rester. Parce que là, tu peux. Il y en a d'autres là, qui vont arriver. Ouais. Là, pas juste les Shield Counters. Ici, Metropolis Angel, deux colorless, un blanc, un bleu. Flying, quand tu attaques avec une ou plus créatures qui ont des counters sur eux, tu piges une carte. C'est une 3-1. Fait que ça dit vraiment OK, essaye de mettre des counters sur tes créatures. peu importe c'est quoi. Là, on n'est plus juste limité au plus 1 compte.
Ouais, ouais, vraiment. Puis là, tu vois, c'est le premier range qu'on voit du set. Je check ça, là, lui, il a survécu à la sauce Ning.
Ben, c'est que le, j'ai lu un peu plus sur le sujet, là, c'est que quand dans le hall Capena, quand ils avaient fait le pacte entre les anges et les démons pour fermer la cité contre les Phérixiens, là, les démons ont fourré les anges, hein, grosse surprise. Les anges avaient tous été transformés en statues. Fait que quand vous voyez sur les artworks, il y en a beaucoup, là, il y a beaucoup de statues d'anges sur les buildings, puis les ponts, puis les lampadaires. Même les chars ont des espèces d'anges là, sur le
sur tableau de bord.
Ça, c'est des anges qui étaient figés dans cet événement-là.
Okay.
Puis, à partir de ces statues-là, ils sortaient la source du halo. Et dans les événements, là, faudrait que je lis un peu plus le storyline, mais on fera un épisode sur le lore à un moment donné.
Ah oui.
À cause de Obnoxilis qui vient foutre le bordel, il y a beaucoup d'anges là, qui sortent de cette espèce de prison-là, puis là, ils commencent à.
Fait que ça, c'est peut-être une ancienne décoration de hood de char qui a
décidé. Ce sont toutes. Si tu regardes le linge, puis les ailes, comme toutes les ailes des anges sont faites en genre de métal.
Ouais, ça
apparaît. Comme fabriqué hors déco, là. C'est pas des ailes en plumes, là.
Fait que là, dans le fond, t'es en train de me dire que le liquide des anges, c'est un petit peu comme les statues qui pleurent. C'est concept en esti, ça. En tout cas, continue, Emmanuel, excusez.
Fait que pour la prochaine famille, les Riveteers, les espèces de syndicats d'ouvriers, là, leur boss, c'est Ziatora, The Incinerator, un Demon Dragon imposant, une 6-6 flying pour 3 colorless et un noir, un rouge, un vert. Qui, au début de ton end step, tu peux sacrifier un other creature. Et si tu le fais, Ziatora, The Incinerator, fait des dégâts équivalents au power de la créature que tu as sacrifié à n'importe quel target. Et tu crées 3 treasure tokens.
Oh yeah!
Ça va être musclé, ça, dans les archétypes de sacrifice. Là, c'est. Attelez-vous. D'après moi, le John Sacrifice est de retour.
Ouais, vraiment.
Vous l'aurez entendu ici. Et leur mécanique, c'est la mécanique Blitz qu'on peut voir ici sur Jaxxis de Troublemaker pour 3 colorless, un rouge, une 2-3 Legendary Creature, Human Warrior. C'est une rare qui tu peux la taper, payer un rouge, discarter une carte, tu crées un token qui est une copie d'un autre target creature que tu contrôles qui gagne haste et lorsque la créature meurt, tu piges une carte, tu la sacrifies au début de ton prochain end step et tu peux juste l'activer en sorcery. On dirait qu'ils ont un peu appris de Kiki Jiki, mais ça te fait piger une carte par exemple, que tu la sacrifies ou qu'elle se fasse tuer le token, c'est quand même assez intéressant. Ça remplace la carte que tu as discartée. Ouais. Et tu as l'habilité Blitz qui est un colorless, un rouge, qui est essentiellement ce que ça donne au token de la créature que tu as copié. Dans le fond, Blitz, c'est que tu peux caster le spell pour son Blitz cost. La créature gagne haste et à la fin du tour, si la créature meurt, tu piges une carte et à la fin du tour, tu dois la sacrifier. Fait que c'est vraiment, tu peux. Donner un petit coup, là, la caster pour vraiment pas cher, la carte se remplace, tu trigger peut-être des sacrifices trigger, peut-être que tu veux la sacrifier avec autre chose déjà avant que son trigger se fasse à la fin du tour, puis tu piges quand même une carte. Là. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Ça me rappelle le Ball Lightning, là. C'est quand même cool.
Ouais, absolument. Fait que, à date, il n'y a pas encore d'autres créatures, peut-être là, dernièrement, là, qui sont sorties là, avec Blitz. Mais j'ai bien
est-ce, qu'on peut sacrifier, est-ce qu'on peut utiliser le Blitz? Attends, c'est quand qui meurt? C'est au end step?
Tu le sacrifies à ton end step.
Ça veut dire, là tu sais, que je parlais tantôt, comment c'était tight, là, la synergie entre les mécaniques, ça veut dire que ça tu sais, les. Ça, c'est quoi? C'est les Riveteers sont rouge, noir et vert.
Ouais.
Ça fit vraiment avec la mécanique que tu sacrifies, là, que je parlais tantôt, là, comment ça s'appelle?
Absolument.
Le casualties.
Yep.
Fait que là, au lieu de le sacrifier pour rien, ben avant ton end step, tu le sacrifies pour caster un spell en second main puis avoir ton casualties.
Absolument.
Et copier whatever que tu vas copier. Là. On voit, là, c'est quand même cool.
Il y a des affaires qui se rejoignent pas mal.
Ouais.
D'autres spells qui sont sortis dans cette famille-là, Unleash the Inferno, un colorless, un noir, un rouge, un vert, un instant qui fait 7 dégâts à target creature ou planeswalker. Et si tu fais du excess damage de cette façon, tu peux détruire target artifact ou enchantment que l'opponent control de mana value équivalent au dommage excédentaire.
Ça, c'est un hommage à Inferno dans The Dark qui était exactement la même chose, mais 6 de dégâts.
Ouais. Ou le Professional Facebreaker, j'aime bien son nom. deux colorless, un rouge pour une 2-3 avec menace. À chaque fois qu'une ou plusieurs créatures que tu contrôles font du combat damage à un joueur, tu crées un treasure token. Et puis tu sacrifies un treasure, tu exiles le top de ta carte de ton library et tu peux la jouer ce tour-ci. Ça va être intéressant. On voit que les treasure tokens risque d'être assez intéressant, assez important dans cet archétype-là. C'est une façon de sacrifier des choses. On va voir. Là. Par exemple, le Black Market Tycoon, un rouge, un vert pour une 2-2. L'espèce de cat rogue. Tu vois, il va te négocier un bon taux sur ton prêt, tu vas voir. Tu peux le taper pour créer un treasure token, mais au début de ton upkeep, Black Market Tycoon te fait 2 dégâts pour chaque treasure que tu contrôles.
Oh!
C'est une espèce de weird ramp.
Ouais, le rouge et le vert, c'est la couleur du ramp dans le set. Ouais. J'ai vu, là, ils font surtout des treasures. Puis, dans le fond, je pense que les cabarettis. Je pense que si tu drafts rouge et vert, là, tu vas pouvoir beaucoup. C'est là qu'il va y avoir la jonction pour jouer plusieurs couleurs, là, je pense.
Ouais. Ouais. On peut voir les cabarettis tout de suite ou après la carte de la semaine?
On va aller à la carte de la semaine. Il est quand même assez capoté, ce chat-là. Merci, Emmanuel. On va aussi remercier Bone qui nous a fait le beat qu'on s'en va écouter. On remercie aussi l'adversaire, hein? 4303 Sainte-Catherine-Est. Je suis tombé dessus?
Drette dessus.
Est-ce que je suis rendu capable?
Premier coup.
Ben oui, qui est notre, on va dire, magasin affilié. Hein? Donc, beat à Bone, puis on se jase la carte de la semaine. C'est le choix d'Emmanuel cette semaine. Ouh là 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 là, j'espère que ça va être un monstre, un gros monstre puissant, un gros démon.
C'est pas un monstre, c'est pas un démon, c'est un artefact.
Ouh! Hein? Ouh, t'es allé dans les rangs.
Je vous ai sorti une carte qui s'en vient dans le prochain set, que j'ai trouvé assez intéressante, puis j'ai hâte de vous entendre parler de ça. Je voulais lancer une petite discussion. C'est le Burglar's Halo Stash. Un artefact pour 5 colorless, un vert, qui ajoute à chaque land que tu contrôles, peut être tapé pour créer un treasure token. That's it.
Créer ses concepts, ça?
C'est aussi simple que ça.
Ah oui, ben oui.
Mais je pense qu'il y a des affaires à faire briser avec ça.
Ben, then you control have create a treasure token.
Tu peux taper toutes tes lands, plutôt que de faire du mana avec, tu crées un treasure token.
Ouais, ouais. Puis c'est vraiment plus versatile. Puis autre chose que toutes tes landes te donnent les manas de la couleur que tu veux.
Ça fit dans les decks d'artefacts.
Ça
fit dans les decks de sacrifice.
Ouais.
Ça fit dans les decks où est-ce que tu veux splasher. Il y a beaucoup d'affaires qui viennent avec ça. C'est un peu cher, mais.
Ouais. C'est 6 manas pour ce pouvoir-là. Ça peut être quelque chose qu'on aurait pensé qu'il valait 4, là, mais. J'ai l'impression
que. Je pense que c'est assez balancé parce qu'à 4, ça va être complètement brisé. Parce que ça fait que ton mana, tu perds jamais ton mana.
C'est ça. Il se passe des affaires. Il se passe des affaires avec ça. J'ai 2-3 idées. Là, moi, ça me rappelle que je jouais j'avais fait un deck là, dans Forgotten Realm, là, le draft de Forgotten Realm, là, que je faisais plein de trésors, puis je sacrifiais ça avec mon Rust Monster, qui a +2/+0 pour chaque trésor gaspillé.
Ben oui.
Il y en a plein des affaires, non, même des Atog qui mangent qui mangent des trésors, des artefacts pour.
N'importe quel truc.
Que tu sacrifies.
Un permanent.
Wow, hein,
c'est. Ça fait pas mal à l'infini là, avec ça.
Ah, mon mec. En tout cas. Ouais, OK. Burglar's Halo Stash, hein, c'est comme vraiment la le frigidaire d'adrénochrome de Big Gates.
Exactement, c'est leur stache de juice.
Tabarnak, ben écoute, ça montre du potentiel, je te dirais. Hein. On verra c'est quoi qui s'en vient avec ça, là, mais je pense qu'on va l'avoir quand même pas mal. Là. Est-ce que ça va tuer ma... Ah ben oui, c'est sûr.
Non, c'est une carte de Commander, ça. Je pense pas qu'on va voir ça dans le... À 6, là.
À 6, ça devient...
C'est parce que quand t'as assez de mana pour la caster, quand t'as assez de mana pour la caster, souvent t'as plus rien dans tes mains. Fait que tu sais, quand même, tu crées des trésors, ça te donne un tu sais, parce que t'as déjà, on s'entend là, t'as déjà, à moins que tu sais, tu bon, là, tu me disais, tu ramp, là, mais tu sais, t'as déjà au moins 5 lands en jeu, de, généralement. Fait que tu sais quoi, avoir plus de mana, c'est peut-être bon pour, mettons, powerer des fireballs, des affaires comme ça.
Ouais. Parce que si tu la, stashes si ton la créature rouge tantôt que je vous ai montré que tu peux sacrifier un token pour exiler la top card de ton library puis tu peux la jouer.
Dans des decks de Finity, ça va être brisé. Là. Quand tu dis là. Ouais, peut-être en mode. Ouais, peut-être. Pas moderne, mais. Parce que tout ce qui care d'avoir des permanents artefacts, là, ça c'est la mécanique Affinity va peut-être pouvoir aimer cette carte-là. Mais 6, c'est beaucoup. Là. Mais ça va être clairement joué en Commander.
Ouais. Ouais. C'est vrai. J'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. J'aime la dynamique, puis je suis curieux de voir comment ça va débouler. J'aime aussi que le jeu assume les treasure tokens. Oui,
ça, c'est rendu un incontournable depuis un an. Là. C'est, je suis content qu'ils vont voir ça parce que ça, moi, j'ai remarqué que les sets qui ont des treasure tokens ont vraiment moins de mana screw.
Ben, c'est ça. Puis c'est plus facile d'y aller trois couleurs, de splasher, même une quatrième couille humaine on the side. Là, je pense que ça rajoute beaucoup de profondeur à ce jeu décédé. Ouais. Ouais. Ben écoute, ça va nous amener en deuxième partie, en dernière partie d'émission. Merci pour cette belle surprise, Emmanuel. On va réécouter une petite tranche de Beta Bone. Puis on s'en va explorer les dernières grandes familles de New Knights of de Capenna.
Streets of
Streets, Crimson, Dion, Capenna. Crimson, Capenna, Invincible, yeah. Pum, t'pum, pum, t'pum. Là, il reste les cabaretis.
Les cabaretis, c'est bon que tu chantonnes. C'est la gang de party, la gang à Jetmere qu'on a vu la semaine passée, le Cat Demon. Ouais. Eux autres, leur mécanique, c'est Alliance. On avait vu là, que probablement qu'ils allaient se soucier d'y aller large, là, d'avoir beaucoup de petites créatures. Et puis, c'est d'autant plus illustré par leur mécanique Alliance. On voit le Devilish Valet qui est là sur le bord du club pour prendre les armes. Deux colorless, un rouge, un 3 Trample Haste et qui a Alliance. Alliance, c'est tout simplement le mot qu'ils ont mis sur sa trigger quand une autre créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle. Dans ce cas-ci, à chaque fois qu'une autre créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu doubles le power de Devilish Valet jusqu'à la fin du tour.
C'est, dans le fond, c'est juste Enter the Battlefield ou on a vu Alliance dans un autre contexte? C'est une mécanique de Enter Battlefield, dans le fond.
C'est une mécanique de les autres créatures rentrent sur le Battlefield.
Ouais, ouais, ouais.
Ouais, non, mais. Ouais.
Mais c'est vraiment juste effectivement.
On dirait.
Alliance, c'est quelque chose qui trigger quand une autre créature rentre sur le Battlefield.
On dirait Constellation dans Theros, mais pour les créatures.
Oui, un peu, oui, effectivement.
Ouais, c'est
parce que parce qu'il n'y a pas de limite à la quantité, ben, à moins que ça soit écrit dans la.
Fait que tu veux des affaires qui fait des tokens.
Ben oui, oui, effectivement, parce que voilà.
Tu crées deux tokens,
Tokens, ben là, tu doubles deux fois avec le. Ça devient une 4-3 Trample Ace. Tu sais. Puis il y a plusieurs affaires, justement, qui peuvent trigger plusieurs fois. Puis plus ça trigger, plus c'est intéressant. Par exemple, les Gala Greeters, un colorless, un vert, pour un elf druide, désolé, Tommy, qui a Alliance. Et à chaque fois qu'une autre créature rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu choisis un des trois qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Soit tu mets plus un counter sur Gala Greeters, soit tu crées un tapped treasure token ou tu gagnes 2 de vie. Fait que c'est des trucs qui peuvent se trigger plusieurs fois. Fait intéressant à noter sur cette carte-là, ils vont sortir une version Alt Art de ces cartes-là,
okay.
Régionale, selon où est-ce que tu vas la pogner. Le artwork va être différent, puis c'est inspiré de l'architecture de la région où est-ce que tu vas la
voir. C'est dommage capoté, ça.
Je n'ai vu il y a à peu près une vingtaine, là, fait que c'est assez,
ouais.
C'est assez spécial.
Il y a une espèce de. Je pense à ça, là, ça rejoint un petit peu dans le set des vampires. Là. Il y avait comme une thématique de balle, puis de oui, grandiose, puis de party. Là, on dirait que ça.
Ouais, ben, eux autres, c'est cette famille-là, c'est ça qu'ils font, eux autres. C'est les party goers. On va voir, là, c'est le premier qu'on voit ce soir, là, mais ils vont sortir un Ascendancy pour chaque clan.
Oui.
Dans ce cas-ci, c'est des enchantements qui coûtent le mana de la
famille.
La famille, là, fait que dans ce cas-ci, un rouge, un vert, un blanc pour le Cabaretty Ascendancy, un enchantement qu'au début de ton upkeep, tu regardes le top card de ton library. Si c'est une créature ou un planeswalker, tu la révèles dans ta main. Sinon, ben, tu la remets au bottom de ton library. Fait que ça t'aide à avoir toujours du jus pour booster tes alliances. Hein. Tu dois toujours avoir des créatures à jouer. Parlant de créatures, un autre elfe druide, Ginny Frey, c'est l'assistante de. C'est la Jetmir's Second. Puis on voit le mana cost qu'on faisait référence la semaine passée, là, un peu étrange.
Oui, c'est vrai, ouais.
Celle-là, c'est dans le fond, tu vas avoir un mana hybride rouge-vert, un vert, puis un mana hybride vert-blanc. Fait que techniquement, tu pourrais le caster pour trois verts.
Ouais.
Techniquement, ça pourrait être une carte mono-verte.
OK, pour ça qu'elle a une robe verte sur l'artwork, j'aime bien ça. C'est cool. Ouais. Puis on voit qu'elle rentre dans le party avec son chien en laisse.
Son petit caracal.
C'est un chat qu'elle a dans la main.
Oui, parce que c'est une 3-3 que si tu devais créer un ou plus tokens, à la place, tu peux décider de créer that much 2-2 green cat creature token avec haste et autant de 3-1 green dog creature token avec vigilance. Fait que ça ultimement, ça double tes tokens et puis ça les rend probablement meilleurs. Fait à la place de créer, disons, un citizen dans ce cas-là, tu te fais un 2-2 chat.
Comme si le chat, il avait une chance de manger le chien, là. Voyons donc. Puis moi, je veux mentionner que dans les cartes qu'on a inventées de Conspi l'année passée, là, moi, je les avais faites, ces casting costs-là, en pensant à ça exactement comme ça. Tu pouvais caster un bonhomme pour trois noirs ou pour trois couleurs différentes. Moi, je l'ai
fait. Un visionnaire, t'as
vu. Moi, je.
Visionnaire, tu l'avais calé.
Le Parkate Pegasus, un vert, un blanc pour une 2-1 Flying Trample qui fait du combat de. Que quand elle fait du combat damage à un joueur, tu piges une carte. Et si deux ou plus creatures étaient rentrés sur le battlefield sous ton contrôle ce tour-ci. Fait que, c'est comme une espèce de alliance à retardement. Là.
Ouais.
Ça va tout un peu ensemble. On aime les tokens dans cette famille-là et c'est d'autant plus vrai avec le Incandescent Area, un sorcery, un rouge, un vert, un blanc qui fait 3 dommages à toutes les creatures non-token.
C'est
un board wipe qui pourrait être one-sided. Sinon, c'est là à quel point tu joues des tokens. Et on voit ici, c'est une returning mécanique. C'est la mécanique qu'on essayait de chercher dans un set des années 2000. Et ils sont allés le chercher dans Lorwyn. C'est Hideaway. On le voit ici sur Rabble Rousing pour un 4 colorless, un blanc, Hideaway 5. Hideaway, ce que ça fait, c'est que tu exiles du top de ton. Tu regardes les 5 premières cartes là, quand c'est Hideaway 5. Tout ce qu'on a vu à date, c'était Hideaway 5. Là. Tu regardes les 5 premières cartes de ton library, tu en exiles une face down et le reste, tu les remets en dessous de ton library. Puis après ça, ça va te donner une espèce de conditions à remplir pour pouvoir jouer cette carte-là gratuitement. Dans ce cas-ci, à chaque fois qu'une créature ou plus attaque, tu crées autant de 1-1 green and white citizen creature tokens que de créatures ont attaqué. Et puis, si tu contrôles 10 créatures ou plus, tu peux jouer la carte exilée sans payer son mana cost. On va voir ça là, à date. Je pense qu'il risque d'en avoir au moins une dans chaque couleur. Des enchantements either way là, qui t'aident à amener un threshold puis à remplir leur propre
condition. create that many. Fait que t'attaques avec trois monstres, ça double tes monstres à chaque fois. C'est
absolument. Bon. Ouais. Puis là, ben, si tu fais des tokens, fait que ça se peut que tu aies l'autre qui est ici. Puis là, ben à oui, place de faire vrai. Un token, ben là, tu fais une 2-2 puis une 3-1 ben, à la place.
Puis je me suis imaginé avec une armée de chiens.
Un chat et de chiens.
Non.
Sinon, après ça, ben, t'as les maestros, hein, les vieux vampires collectionneurs de trésors. On avait vu Lord Xander la semaine passée, le vampire démon noble. Et eux autres, leur mécanique, c'est casualty. On l'a vu tantôt avec Jason, qui va toujours être suivi d'un chiffre qui est le power de la créature que tu dois sacrifier pour pouvoir copier le spell. Un exemple de ça, c'était Cut Your Losses, 4 colorless, 2 bleus pour un sorcery avec casualty 2.
Cool, celle-là.
Qui est, oui, c'est Target Player Mills Off Their Library Rounded Down. Donc, si tu réussis à le doubler, ben là, tu fais la moitié, puis la moitié de la moitié. C'est assez.
Ça, ça fait tellement des années que je l'attends, cette carte-là. Moi, je suis un gros fan de Milling. Là. Puis, c'était jamais bon en multiplayer, Milling. Parce que, tu sais, mettons, là, t'as 4 joueurs autour de la table, il faut que tu passes à travers 300 cartes. T'sais. Ça, c'est la solution à ça. Il y a pas de. Tu sais, il y a des cartes qui vont dire, oh, all open end, 1002, mais c'est pas assez. C'est jamais assez. Ça, c'est la moitié de la librairie. Merci, bonsoir.
Bon. Ouais, non.
Le seul problème, c'est là qu'ils l'ont bien balancé, c'est que les créatures qui font du milling ont rarement un power de 2 ou plus. C'est généralement des créatures qui sont 0-3. Des 0-3 ou des 1-2. Là, ouais. Fait que ça, en tout cas, va falloir que je fouille.
Moi, en fait, il y a un spell de Sphinx. Là,
Sphinx Sutage.
C'est ça, que à toutes les fois que toi, tu piges une carte, tous tes adversaires se millent de 1. Puis,
mais 1000 de 1.
Moi, avec ça, ouais, mais ça vaut quand
parce
même.
Parce que tu te milles autant qu'eux vu que tu es en train de piger ce qui est 1000.
Non. mon deck de slush, je gagne.
Je suis d'accord avec toi, Tommy. Là, c'est fort. Mais c'est si t'es tanné de jouer Sphinx to Ledge, t'as pas d'autres alternatives en ce moment.
Bon, oui,
ça, c'en est une. On verra.
Sinon, leur Ascendancy, le Maestro's Ascendancy, un bleu, un noir, un rouge, l'enchantement au début de... plutôt une fois par tour, tu peux casser un instant ou un sorcery spell de ton graveyard en sacrifiant une créature en plus de payer le coût du spell que tu castes. Et si tu castes un spell de cette façon, tu l'exiles par la suite. Donc, casualty, dans le fond, tu peux recaster tous tes instants, tes sorceries. C'est quelque chose qu'on reconnaît un peu de Grixis, là. Oui. Le graveyard, puis les spells, les instant sorcery matters. Là.
Ouais.
Ça, je pense que ça va trouver sa niche dans certains decks assez facilement. On voit aussi son assistante, I guess. Ils ont tout un
henchman.
Un autre legendary creature rare. Là. Cette fois-ci, c'est Evelyn de Covetous pour 2 colorless. Après ça, un mana hybride bleu-noir, un noir, puis un mana hybride noir-rouge. Donc, ça pourrait être 3 noirs, 2 colorless, 2-5 flash. Quand Evelyn ou un autre vampire rentre sur le battlefield sous ton contrôle, tu exiles la première carte de chaque library. Tu l'exiles avec un collection counter dessus. Une fois par tour, tu peux jouer une carte en exil avec un collection counter dessus si elle a été exilée par une habilité que tu contrôles là, pour pas que ces deux personnes qui jouent un contre l'autre avec fait que celle que toi t'as exilé avec un collection counter dessus, tu peux les jouer en dépassant le mana de la façon que tu veux là, ça te soucie de la couleur. Fait que ça, c'est quand même drôle là. C'est toujours le fun de jouer avec les spells des autres.
Hey, vous vous amuserez là à mesure que les spoilers sortent là. C'est les personnages légendaires rares, tu sais, les chefs sont des demi-démons là. Les 5 chefs des 5 familles, puis ils ont chacun un assistant dans le rare qui est une créature légendaire, mais checker leur face et leur costume, on les retrouve aussi sur des communes. Puis, c'est comme ça que tu peux reconstruire l'histoire. Puis, sans vouloir trop spoiler d'affaires, il y a une couple d'assistants qui vont remplacer les boss. Parce que, tu sais, il va y avoir beaucoup d'intrigues.
Ben déjà, je pense que ici Xander a été remplacé par Obnixilis.
Ben, t'as pas montré la carte encore. Donc c'est...
Oh là 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 là.
Il est spoilé sans avoir montré la carte.
Ben non, mais on le savait qu'Obnixilis.
C'est la carte.
On l'a dit la semaine passée, je vais la montrer tantôt.
Ouais, vas-y, continue.
Sinon, on peut regarder, là, justement, il y a d'autres trucs là, qui sont intéressants à faire avec l'Instant Sorcery. Arcane Bombardment, un enchantement mythique pour 4 colorless, 2 rouges, qui à chaque fois que tu castes ton premier Instant ou Sorcery, chaque tour, tu peux exiler un Instant ou un Sorcery au hasard de ton graveyard et tu copies chaque carte exilée avec Arcane Bombardment. Fait que plus t'en as fait, plus que t'en as exilé avec, tu peux caster ces spells-là sans payer leur mana cost. Fait que c'est une espèce de plus ça va, plus que tu castes de instant puis de sorceries. Là, parce que tu peux, la deuxième fois que tu le triggers, tu peux recaster le premier spell que t'as exilé plus celui que tu viens d'exiler au hasard. ça peut faire des affaires un peu
plus. Ben oui, il y a du potentiel. C'est vraiment
parlant
concept,
de,
ça, pour un bleu en plus, flash, haste, c'est concept.
Il y a beaucoup de... Fait que là, on a vu là, avec Casualties, avec ça, il y a bien des spells copiés, bien des copies de spells. Puis, on avait parlé avec notre juge niveau 2 la semaine passée d'une carte qui le faisait se questionner un peu. En fait, le texte de règle qui avait été teasé par Mark Rosewater. Et on le voit sur Errant Street Artist. Et là, c'est pas un street artist errant. C'est son nom, Errant, parce que c'est une legendary creature. Pour un bleu, 0-3 Human Rogue avec Flash, Defender et Haste. Que tu peux taper en payant un colorless, un bleu pour copier target spell you control that wasn't cast. Et you may choose new targets for the copy. Donc, c'est spécifiquement, I guess, ciblé pour les copies de spells que tu ne castes pas nécessairement.
Ben oui, c'est... Ça va-tu bien avec la carte juste à gauche? J'essaie encore de la comprendre.
Non, celui-là, je pense que c'est You May Cast.
Ouais, c'est ça, ça caste
encore. Ça va avec les... ça va avec Casualty, par exemple.
Ouais, ça c'est vrai.
OK. Parce que tu copies le spell, tu le castes pas.
Ouais.
Mais ouais, c'est très étrange. fait qu'on va passer là-dessus. Obscura, on se rappelle de Raffine, le sphinx démon. Eux autres sont connive, hein, l'espèce de loot sur la sauce. On le voit sur le Ledger Shredder qui est en train de détruire les preuves. Un colorless, un bleu pour un Bird Advisor, un 3 flying. À chaque fois que tu casses ton deuxième spell chaque tour, en fait, à chaque fois qu'un joueur casse son deuxième spell chaque tour, le Ledger Shredder connives. Fait qu'il peut se booster déjà sur tes spells, mais aussi sur les spells des autres.
Eux, de ce que j'ai compris dans le lore, c'est qu'ils sont capables de lire le passé, je pense. Hein? C'est qu'ils arrivent sur une scène de crime ou dans un lieu qui s'est passé de quoi. Là, ils font leur magie, puis c'est les espèces de nuages bleus qu'on voit autour. Là. Ouais, fait que là, ça va apparaître trop, pour eux. C'est, mettons, il y avait un party, puis là, tu arrives après le party, puis il y a juste comme des vers sales à terre, mettons. Là. Mais là, eux, avec leur magie, ils sont capables de recréer le party. Fait qu'ils savent qui a parlé qui, puis après ça, ils utilisent ça pour faire de l'extorsion.
Ok.
Il ça quelque part. Là. Puis il y a un spell qui montre ça.
Ok. Ici, j'ai retrouvé le Cephalid Wizard, un Obscura Interceptor pour un colorless, un blanc, un bleu, un noir, avec Flash, Lifelink, 3-1. Quand elle rentre sur le battlefield, tu connives, et quand tu connives de cette façon, tu return up to one target spell to its owner's end. Donc, tu sais, c'est en flash le spell qui est sur le stack, tu le retournes dans la main, fait que tu bounces le spell, puis tu as une 3-1 lifelink, peut-être même une 4-2 si tu connives et que tu as discarté une non-land card. C'est assez intéressant.
On le voit dans son espèce de bulle bleue là, ouais. En magie, là, c'est ce que je raconte.
Il se passe de quoi, là.
Puis, tu vois, sur la carte que j'avais présentée au début de l'épisode, là, Echo Inspector, là, ça disait dans le flavor text, le rendez-vous a eu lieu il y a des heures, mais l'agent des Obscura était capable de savoir qu'est-ce qui s'était passé, comme s'il avait participé.
On mène l'enquête. On peut voir leur Ascendancy, le Obscura Ascendancy pour un blanc, un bleu, un noir. Enchantement qu'à chaque fois que tu castes un spell, si son mana value est égal à 1 plus le nombre de Soul Counters sur Obscura Ascendancy, tu mets un Soul Counter sur Obscura Ascendancy et tu crées un 2-2 White Spirit Creature Token avec Flying. Et tant que tu as 5 ou plus Soul Counters sur Obscura Ascendancy, les spirits que tu contrôles ont +3/+3.
Calvaire, hein?
Yep. Que ça te fait quelque chose à faire. Ça te donne un petit objectif. T'sais.
Puis on vient de voir un céphalide aussi, si j'aime ça.
Ouais. Le second, le lieutenant de la famille, c'est Tolus, The Clever Conductor, pour un mana hybride blanc-bleu, un mana bleu, un mana hybride bleu-noir. C'est un peu fucké à dire, hein, ces mana spells-là.
Bleu-bleu-bleu.
Bleu-bleu-bleu, let's go, c'est plus facile de même. Human Rogue 3-1, légendaire, quand elle rentre sur le battlefield. Tu connais, évidemment, et... quand tu discartes une carte ou plus, tu les exiles de ton graveyard et quand Tolus meurt, tu mets les cartes exilées dans ta main. Fait que ça te permet de reprendre toutes les cartes que tu as discartées avec des connives. Une fois que Tolus meurt, tu peux les remettre dans ta main au lieu de... Fait que ça enlève un peu de synergie de graveyard, mais ça fait du card advantage pas mal.
Ben oui. Solide, man. Bring it, c'est ça.
Ouais. Une carte que je trouvais bien drôle, le Body Launderer, un Ogre Rogue 3-3 pour deux noirs, deux colorless, 3-3 Dead Touch. À chaque fois qu'un autre non-token creature que tu contrôles meurt, Body Launderer connives. Et lorsque Body Launderer meurt, tu retournes un other target non-rogue creature card avec power équivalent ou moindre à celui de Body Launderer sur le battlefield. C'est comme celui qui dispose des rares des syndicats.
Il y en a un qui est pas mort à un moment donné et qui s'en charge à la place.
Ben, c'est
le premier ogre que je vois de mémoire là, avec une coupe de cheveux.
Avec une petite une espèce de petit toupet. Là. Ouais.
Le look moustache Kaiser.
C'est quoi qu'il fait? Il remplace le sang?
Il
injecte de magie. Là.
Peut-être qu'il le remplace avec de l'aura pour le ramener du halo pour le ramener en vie. Un instant qu'on. Je pense qu'on va le revoir peut-être une couple de fois. Celui-là, c'est Void Rend pour un blanc, un bleu, un noir. Un instant, this spell can't be countered. Destroy target non-land permanent.
OK.
Ça, c'est pas un reprint, ça?
That's all.
Non, c'est la première fois que je vois ça.
Non, mais ça ressemble à... Comment ça s'appelait?
Ça ressemble à Vindicate, qui était un noir, un blanc, puis un colorless, puis qui faisait la même affaire, mais tu pouvais le counter-ray, puis...
Fait que c'est meilleur. Voilà.
Ben oui, c'est meilleur, oui. Ah ouais, voilà. C'est solide. Vindicate, ça a déjà valu 40$, je pense. C'est l'époque.
Good old days.
Une carte que je vous ai sortie parce que c'est un... c'est un texte qu'on va revoir sur certaines cartes. Le Haven Earthstabber, un bleu, un noir, Bird Assassin, un flying, et qui, tant que tu as 5 mana value différentes ou plus dans ton graveyard, ça trigger quelque chose. Dans ce cas-ci, il gagne +2/+2 de touch. S'il meurt, tu milles de 2 cartes et tu piges une carte. Ce texte-là, là, s'il y a plus 5 mana value différentes ou plus, ça va se retrouver sur d'autres cartes. Là.
On l'a vu deux fois, je pense, avant de le voir. Là, c'est une bonne chose.
Yep.
Ça, bleu, noir, assassin, là. Bring it. Ici.
Absolument. Pour finir, une autre petite carte, je trouvais ça drôle avec Either Way, le Fight Rigging. Deux colorless, un vert, enchantement avec Either Way 5. Au début du combat sur ton tour, tu mets +1/+1 counter sur target creature que tu contrôles. Puis si tu contrôles une créature avec un power de 7 ou plus, tu peux caster le spell que tu avais exilé sans jouer son mana cost. Je crois que le combat d'espèce de rhinocéros, c'était arrangé, tout ça.
Tout ça est arrangé.
Yep. Fait que je vous ai gardé pour la fin des petits desserts, là, un peu en pêle-mêle, là, toutes sortes de cartes intéressantes qui a vu, évidemment, à tout seigneur, tout honneur, les cartes de Planeswalker. Il y en a trois. C'est le retour de Elspeth et de Vivienne. Elspeth Resplendent. 3 colorless, 2 blancs. Elle rentre en jeu avec 5 de loyauté. +1, tu choisis jusqu'à une créature. Tu mets +1/+1 counter et un counter, soit flying, first strike, lifelink ou vigilance dessus. -3, tu regardes les 7 premières cartes de ton library. Tu peux mettre un permanent card avec un mana value de 3 ou moins parmi celles-ci sur le battlefield avec un shield counter dessus.
Avec un shield counter, j'aime ça.
sur les autres dans
c'est
un.
Ça, les Shield Gunter, c'est idéal quand tu viens qu'à sacrifier un de tes monstres, parce que là, tu fais juste enlever les Shield Gunter, là, tu pètes pas le monstre.
Sacrifie, tu la contournes pas les Shield Gunter.
Oh non! Oh, on était presque rendus.
Et son ult, là, moins 7, tu fais 5, 3, 3 White Angel Creature Tokens avec Fly.
Oh shit, hein? Fait que là, il y a des affaires d'alliance.
C'est le retour des anges.
C'est Alibert, c'est ce que je parlais tantôt, c'est que c'est elle qui libère les anges des
On vous redonne votre adrénochrome, les amis.
Je dis ça sous toute réserve, là, mais il me semble que c'est ça que j'ai lu.
Quelque chose qui ressemble à ça. Vivienne of the On the Hunt, pas Vivienne of the Hunt, Vivienne On the Hunt. Yes. 4 colorless, 2 verts. Elle rentre avec 4 de loyauté. Plus 2, tu peux sacrer une créature. Si tu le fais, tu cherches ton library pour une creature card avec mana value équivalente ou 1 de plus au mana value de la créature sacrifiée et tu le mets sur le battlefield. Plus 1, tu milles 5 cartes et puis tu peux mettre n'importe quel nombre de creature cards que tu as millé de cette façon dans ta main. Et pour son moins 1, un petit moins 1 facile, là, tu fais un 4-4 Green Rhino Warrior Creature Token.
Calvaire, hein, c'est pas pire ça. C'est concept, il n'y a même pas comme le gros moins 30 là, que d'habitude il faut viser. Là,
c'est ça, celle-là, elle n'a pas de...
Elle augmente juste.
Ouais. Puis elle se fait un petit 4-4 on the spot. Mais
tu sais, un sidekick.
Elle peut faire beaucoup de 4-4 avant de devoir faire plus, mettons.
C'est ça, ouais. Si on met le 5 cards aussi, là, tu peux facilement te ramasser avec 3 monstres de plus à caster.
Absolument. Ouais, fait que ouais, elle est assez intéressante. Elle.
Ouais.
Parlant d'intéressant, Obnixilis, l'adversaire avec un grand A.
C'est la mascotte?
Ouais. C'est la mascotte 17, effectivement. Un colorless, un noir, un rouge. Il rentre avec 3 de loyauté. Par contre, il y a Casualty X. Et tu copies, dans le fond, Casualty, ça copie le spell. Hein? Fait que tu vas copier le Planeswalker. Le token n'est pas légendaire et il rentre avec X de loyauté où X est le power de la créature que tu as sacrifié.
Okay.
OK.
Oh, j'aime ça.
Fait qu'à plus 1, chaque opponent perd 2 de vie, à moins qu'il discarte une carte. Si tu contrôles un démon ou un devil, tu gagnes 2 de vie. Sans moins 2, tu fais un Red Devil Creature Token avec le classique que c'est à mort, tu fais un dégât à n'importe quel target. Et sans moins 7, target player pige 7 cartes et perd 7 de vie.
OK. OK.
Fait que ça, c'est souvent, tu vas t'en avoir 2 ensemble là, qui vont arriver, qui vont faire toutes sortes de shenanigans. Si t'as une grosse créature à sacrifier, tu peux tout de suite faire son moins 7.
Ben oui, c'est tout de suite ça que j'ai vu, moi, dans ma tête des erreurs les plus pires. Là,
Fun fact, là, ça, c'est elles sont moins 7, là, c'est exactement le pouvoir que la carte d'Omnixilis avait dans War of the Spark, c'est qu'il faisait Underworld Dream. Non. Pour chaque carte que tu pigeais, tu perdais une vie.
Ouais.
Fait que là, dans le fond, là, tu piges 7 cartes, tu perds 7 vies. Tu sais, il a gardé ses vieilles habitudes.
Ouais.
Puis, quelque chose d'intéressant que je sais pas, peut-être que ça va se faire en Jund. Mais
il est vraiment pas cher à 3, là.
Il est vraiment pas cher.
Puis.
Son token peut facilement être copié avec un Essical's Chariot.
Ah oui.
Ouais, il se défend seul.
Puis tu peux créer un devil avec son pouvoir moins 2 qui, après ça, fait que tous tes plus 1 sont activés avec toi et qui gagne de l'énergie pour que, fatalement, tu t'en crisses un peu de perdre 7 d'énergie pour piger 7 cartes.
Sur Casualty, c'est quand tu le casses, c'est ça?
C'est quand tu le casses.
C'est quand tu le casses.
T'as 2 princes de mange-marde de gros cris de torchon. C'est une attitude. Check, il s'est fait pousser des ailes, mais ça, il n'avait plus de ça. Oui, fera bien ce
qu'il veut. Il les a repris justement que Kierpunk son Spark dans.
On repart. Des
nouvelles ailes qui repoussent.
Bon.
World of Spark avait ses ailes.
Eh oui.
Et voilà.
Et tout bon mob boss se doit de se déplacer avec luxe. Et c'est pourquoi il y a le Mysterious Limousine. Vous allez voir, ils ont ressorti quand même une couple de véhicules.
Ils sont pas mal cool. Il y avait beaucoup de gens qui avaient peur.
C'est une affaire assez spéciale, ouais. Celui-ci, le Mysterious Limousine, c'est 3 colorless, 2 blancs pour une 4-4 avec crew de 2. À chaque fois qu'elle rentre sur le battlefield ou qu'elle attaque, tu exiles up to one other target creature jusqu'à ce que Mysterious Limousine quitte le battlefield.
C'est quoi, t'es embarqué dans valise pour aller faire une ride de char?
Mais il y a juste la place pour une personne dans valise parce que à chaque fois que tu exiles une carte avec Mysterious Limousine, tu retournes sur le battlefield sous son armor control, l'autre carte que tu avais d'exilé. Tu peux pas juste mettre du monde à l'infini dans limousine.
Le mob boss aussi, tu vois, il peut pas jaser avec plus qu'une personne à la poêle.
Voilà, ça va sur le banc en arrière. Là, on voit sur le artwork. Là. C'est vraiment cool.
Les deux prochaines, je vous ai sorti deux grosses créatures qui coûtent pas cher. Le Shakedown Heavy, deux colorless, un noir pour une 6-4. Ouais, 3 mana pour une 6-4 menace.
Menace!
Ouais, quand elle attaque, le defending player peut te décider de te faire piger une carte et s'il fait ça, le Shakedown Heavy est retiré du combat.
Oh, wow, hein, c'est cool.
Fait que là, dans le fond, c'est comme du bribe, là, c'est je te pète la gueule si tu me donnes pas une carte.
Ouais, vraiment.
Exactement.
Vraiment.
Y a-tu des façons de contourner ça?
Je sais
pas. Parce qu'à un moment donné, il faut t'achèves ton adversaire, puis si t'as juste ton Shakedown Heavy.
T'as mieux, t'as rien qu'à planifier.
Tu piges autre chose, là.
C'est ça.
tu piges de quoi l'achever, tu sais.
J'aime ça.
Mais c'est une créature que tu joues de bonheur, mais moi, j'aime ça quand il y a des choix à faire. Là,
j'aime ça, mais ça va aller. Moi, en moderne, là, je joue avec le Régisor puis le Egon, God of
Death. C'est un peu dans cette même façon-là.
Ça fit, là,
ça va très bien avec le Rotting Regisor qui fait discarter une carte au début de ton tour. Hein.
Effectivement. Ça, c'est genre le dragon, le dinosaure noir.
Le dinosaure squelette.
3, c'est quoi? C'est un 7-3, c'est ça?
C'est un 7-6.
7-6 pour 3. Faut
que tu discartes.
7-6 pour 3, tu
discartes une carte, sinon tu le sacrifies. Genre, ouais, c'est con.
Parlant de dinosaures, il y a le Topiary Stumper. Ils ont animé un buisson.
Oh, c'est cool.
un colorless, deux verts pour un Plant Dinosaur. Une 4-4 avec vigilance quand elle rentre sur le battlefield. Tu peux chercher ton library pour un basic land card que tu mets sur le battlefield tapé. Mais il ne peut pas attaquer ou bloquer tant que tu contrôles pas 7 ou plus land.
Ça vient de... Dans Ixalan, il y en avait plein de ça. C'est des gros dinosaures, pas chers, mais il ne peut pas attaquer tant que tu n'as pas tant de land.
Exact. Sinon, on avait la semaine passée, on parlait d'une carte qui allait coûter 13 colorless, 2 noirs. Elle est ici, c'est le Shadow of Mortality. On le voit un peu, là, les ombres sur les gratte-ciels.
Qu'est-ce que Lord Riot?
Ouais. C'est une 7-7 pour 13 colorless, 2 noirs. Si ton life total est moins que ton starting life total, le spell coûte X colorless de moins casté, ou X, c'est la différence. Entre ton live total.
Tabarnak. C'est concept en esti, ça, là. C'est
la même chose que Death Shadow.
Ça veut dire que si tu as 7 de vie, c'est une 7-7 pour 2.
Ouais. Il y a quelque chose. Je sais pas si ça me stimule tant que ça, mais le dessin, il est cool, là, Chris.
C'est un peu drôle.
Ça va être jouable, là. C'est
une très bonne carte de limité.
Non, mais c'est parce que, tu sais, ils ont clairement pris Dead Shadow, là, qui était une 13-13 pour un noir, puis qu'il était moins X, étant ta vie. C'est un riff là-dessus. Fait qu'il lance un défi aux joueurs de Magic. Voici un Dead Shadow plus cool. Essayez de briser ça. Puis Dead Shadow, quand c'était sorti, là, tout le monde disait que c'était pas bon. Quand Dead Shadow est sorti en 2009, là, je peux te sortir les articles. Mm-hmm. Ça a pris quelques cartes sorties dans des sets suivants avant que les gens se sont dit « Ok, c'est jouable en compétitif. » Puis 10 ans plus tard, là, c'est un des decks les plus forts en moderne. Fait que ça, j'ai à regarder le bien aller. Là. Hâte de voir.
Oh, t'as hâte de voir, j'ai déjà entendu ça, moi. Ouais.
Écoute.
Exactement.
J'ai une carte que j'ai trouvée un peu drôle, le Angel of Anguish, un Nightmare Angel, 3 colorless, 2 noirs pour une 5-3 flying, que si tu reçois du dommage, tu le préviens et tu te milles de 2 fois la quantité de dommages que tu aurais pris. Quoi faire avec ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est. Je trouve ça
pas. Je pense que c'est un enabler à combo. Là.
Absolument.
C'est pas fait pour tuer ces cartes-là. Là. C'est fait
c'est idéal pour gonfler ton propre graveyard. Là. Ça, c'est super cool.
Oui, mais ça t'empêche de mourir aussi. Ce qui n'est pas négligeable.
C'est quand même assez facile aussi de remettre tout son graveyard dans son library. C'est quelque chose qui est assez plus possible à faire que mettons, gagner 50 d'énergie d'un coup. Ça te prend un petit peu plus de pratique. Là.
Ouais. Ouais, c'est ça, fun. Il y a un artefact dans Scourge qui faisait ça, ou c'était dans Mercadia, puis j'ai joué, je passe d'un tournoi de pré-moderne en ce moment, puis je joue un deck de burn, puis je me suis fait sortir ça exactement. C'est un artefact qui coûtait 5. Mm-hmm. Et chaque fois que je faisais des dégâts, à la place, ça millait.
Ouais.
Puis c'était quand même cool comme effet. Là.
Ouais, non, je pense qu'il y a des trucs
pour Graveyard
pas pire à faire. Ouais. On aime ça, les cartes qui nous font gagner. Hein. Halo Fontaine.
Le blast est trop fort.
C'est... Attends, là, voyons donc. Un artefact pour 2 colorless, un blanc mythique. Tu peux le taper, payer 1. Tu untapes une tap creature que tu contrôles pour créer un 1-1 green and white citizen creature token. Tu peux payer 2 blancs, le taper. Tu untapes 2 tapped creatures que tu contrôles. Tu piges une carte. Et tu peux payer 5 blancs, le taper, untaper 15 créatures tapées que tu contrôles. Pour gagner la partie.
Concept.
Hein? Fait que, mets ça dans ta pipe.
Ça va être plus pour les deux premiers pouvoirs qu'on va l'utiliser, moi, j'ai l'impression.
Ouais. C'est... Ouais, ça va faire un bragging right si tu réussis à gagner une game en limited, là, mettons.
Parce que c'est pas juste...
Low Fountain en sealed, là, puis tu réussis à gagner, là.
c'est pas, mettons, tape 15 créatures non tapées que t'as. Faut que t'en tapes 15 créatures. Ça veut dire que, mettons, il y a un tour que, c'est ça, il y a un tour que toi et puis tes 17 monstres vous attaquez, il y en a deux qui meurent parce que l'autre, il en bloque deux, puis là, après, tu peux triggerer ton shit. C'est quoi que c'est en instant, fait que tu peux comme attaquer avec des
trigger, triggerer avant juste. Les blocs. Là.
Ouais. Et puis c'est qui avait gagné ça? Je pense que c'est Jason qui avait prévu le Praetor rouge. On voit ça.
Jason, il l'a vu dans l'histoire. Il a bien lu entre les lignes.
Urabrasque.
C'est le grand retour de Urabrasque, le Heretic Praetor. C'est le parfum de la famille. C'est le mouton noir des Praetors.
C'est le rejet.
Ouais. Phyrexian Praetor, 4-4 pour 3 colorless, 2 rouges avec Haste. Au début de ton upkeep, tu exiles le top card de ton library. Tu peux la jouer ce tour-ci. Et au début de chaque upkeep de tes opponents, la prochaine fois qu'ils pigeraient une carte, ce tour-ci, ils exilent la top card de leur library et peuvent le jouer ce tour-ci. Fait que ça fait comme un peu à peu près. C'est étrangement, ça fait juste le même effet à tout le monde.
Ouais.
C'est pas.
Ça fera pas beaucoup de decks, comme ça.
Je sais pas. Ça empêche l'autre d'avoir une main.
Laisse-moi l'absorber un peu plus.
Contre un deck de contrôle, je pense que c'est bon parce que ça permet ça empêche l'autre de garder
des cartes dans sa main, des
dans sa main puis jouer à ton tour. Parce que
je pense que
tu l'exiles et tu peux juste le jouer ce tour-ci.
Ouais. Puis aussi, c'est que toi, ça, tu piges ta carte pareil.
Je pense dans des decks aggro, sûrement au moins au sideboard.
Il y a une carte blanche dans Ikoria, qui est une créature, un petit wizard 2-2, là, que tu peux pas jouer des cartes s'ils ne viennent pas de ta main.
Oui, c'est le... Mais
je veux dire, il existe des façons d'empêcher les gens de jouer les cartes.
Ouais, pour locker quelqu'un. Ouais.
Faire un petit lore nugget avec Urabrasque.
Ben oui.
Lui, dans le fond, dans le storyline, c'est que, parce que dans le New Phyrexia, les 5 prétors sont en guerre un contre l'autre. C'est qui va être le Phyrexien parfait de la gang? Urabrasque, dans le fond, il a fait un deal avec Tezzeret. Mais Tezzeret, en fait, a fait secrètement un deal avec chacun des prêteurs pour utiliser le Planar Bridge pour les envoyer chacun sur un plan différent. On se rappelle, il va envoyer Vorinclex sur
Kaldheim
pour trouver la Tirith qui permet de devenir un dieu, de devenir indestructible. Il avait envoyé Jin Taxia sur
Kamigawa
pour faire le Reality Chip qui permet de créer des Planeswalkers, je pense. Et Urabras qui l'envoie sur New Capenna pour, je pense, voler le Halo.
Probablement.
Il va ramener de l'adrénochrome, mais tu sais, mélange
ça. On va voir la semaine prochaine, qu'est-ce que ça veut dire, là, ou quelque chose de lore.
Hey, merci beaucoup, c'est très intéressant. J'ai très hâte de découvrir le 7, ben voilà, hein, le 22. Ça veut dire qu'on va faire un autre terrain basique la semaine prochaine avant d'aller se s'intertorcher, on pourrait dire. J'ai tout à plus de difficultés avec les seals qu'avec les drafts, là, mais ça va finir par faire mal, là, on espère. Merci beaucoup, Emmanuel, c'est très intéressant.
C'est un plaisir.
Merci beaucoup, Jason. T'étais très présent. C'est le fun quand tu parlais aussi, hein, je pense. Oh, il est content. Il est satisfait. Et on va remercier aussi Martin Godette qui s'occupe du montage. Martin de podcast.com. Hein, je pense que je viens de m'en rappeler. On remercie l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. On remercie aussi Bond qui s'occupe des beats. Mon nom est Tommy Godette. Je vous souhaite à tous et à toutes. On est disponible sur Spotify, faut pas oublier. D'être le moins manascrou possible.
Membre de la famille H2O Web Media.